Bonjour et bienvenue au balado « Mieux connaître, mieux choisir », une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, vous permettant de découvrir plusieurs métiers du marché du travail.
Bonjour, bienvenue au podcast « Mieux connaître, mieux choisir ». Aujourd'hui, nous recevons Patricia Veilleux, conseillère en emploi. Je suis accompagnée de ma collègue Vicky. Bonjour Patricia, merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Tout d'abord, on voudrait savoir en quoi consiste ton métier par rapport à la vision que les gens peuvent avoir en fait en entendant le mot conseillère en emploi, puis par rapport à la réalité en fait.
C'est sûr que si je commence un petit peu avec la vision que certaines personnes pourraient avoir, là, souvent c'est associé à des agences de placement. Là. T'sais, mes jeunes, ils me disent « Ah, tu vas me trouver une job, là, tu vas le faire à ma place. » Dans le fond, c'est pas vraiment ça. T'sais, c'est plutôt que je vais les aider à trouver un emploi. T'sais, mon rôle, c'est vraiment plus de donner des conseils, de les accompagner, de donner des outils pour qu'ils puissent entamer leur démarche par eux-mêmes aussi, puis de faciliter leur recherche d'emploi. Donc moi, je suis pas là pour faire les démarches à leur place, bien sûr. Fait que c'est souvent le point numéro un là, qui est associé à mon rôle de conseillère en emploi. Puis aussi, il faut savoir qu'un conseiller en emploi, ça peut porter plusieurs titres. Donc, ça ne veut pas dire que ça va toujours travailler avec des chercheurs d'emploi. Donc, parfois, ça peut travailler dans d'autres secteurs. Donc, aussi, contrairement à un conseiller d'orientation, le titre n'est pas réservé. Donc, il ne faut pas faire partie d'un ordre nécessairement. Donc, moi, plus précisément, mon métier aujourd'hui, ben, c'est de conseiller les jeunes. Donc, nous, on va faire des ateliers ensemble pour viser un métier semi-spécialisé. On va faire des ateliers, par exemple, avec la création d'un CV, l'exploration du marché du travail, des types d'emplois, l'entrevue, le marché du travail en général, par exemple, comment ça fonctionne, les pauses, les dîners, les payes. On va regarder aussi les méthodes dynamiques de recherche du travail, donc le marché caché, marché ouvert, la recherche en ligne, la recherche en personne. Puis, nous, on offre aussi un service d'accompagnement avec le jeune terrain. Donc, on les emmène dans notre auto, on fait avec eux là, les recherches directement, puis on peut faire aussi du maintien en emploi. Je fais aussi j'ai un volet stage, il y a un volet retour aux études, puis les entreprises d'insertion. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, là, mais en gros, on travaille beaucoup dans le domaine de l'employabilité.
Tu as dit qu'en fait, tu utilisais des outils avec ta clientèle. Donc, c'est quoi les outils exactement que tu utilises avec ta clientèle?
Oui, tu sais, contrairement, mettons, à plusieurs conseillers d'orientation, nous, on n'utilise pas nécessairement de tests. Donc, les outils, ça peut être beaucoup du matériel visuel. Fait que, tu sais, il faut savoir que ma clientèle, c'est des jeunes. Des fois, c'est plus facile pour eux quand c'est visuel. Fait qu'on a des outils, par exemple, une roue miroir. La roue miroir, en gros, c'est comme une tarte qui a différentes pointes de tarte. Puis, c'est juste pour jaser avec eux de différents sujets. Par exemple, on dit, bon, ben, qu'est-ce qui t'a le goût de jaser en premier? Donc, c'est pour nous aider à communiquer avec eux, puis eux, que ce soit visuel. Fait que je te dirais que le trois quarts de nos ateliers a toujours un outil visuel accompagné, par exemple. Quand on fait l'entrevue, on a une fleur pour parler de la question « parle-moi de toi ». Tu sais, parce que cette question-là, souvent, c'est difficile, on ne sait pas trop ce qu'on veut dire. Fait qu'on a un outil visuel pour les aider à mieux comprendre aussi la question, mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut dire. Puis nous, ça nous aide aussi à les expliquer là, dans des mots plus simples.
C'est très intéressant. Puis, tu as aussi nommé le marché caché versus le marché plus visible. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence?
Dans le fond, le marché caché versus le marché ouvert. Je vais commencer par le marché ouvert. En gros, c'est des termes super simples qui veulent dire marché ouvert, c'est tout ce qu'on voit. Fait que vous voyez une affiche sur une entreprise affichée sur la porte, vous voyez les postes en ligne qui sont affichés. Fait que vraiment, le marché ouvert, c'est des postes qui sont disponibles puis qui sont affichés. Fait qu'on le sait que les entreprises, ils cherchent des employés. Puis le marché caché, en fait, c'est le contraire. C'est un petit peu... Tu sais, il y a des postes de disponibles, mais ils sont pas affichés. Fait que c'est plus du bouche à oreille. C'est plus une façon que tu vas dire, entendre dire « Ah, oh, on cherche à telle place » ou tu vas faire une candidature spontanée. Ça, c'est quand tu décides de postuler à un endroit, même s'ils cherchent pas en ce moment. Donc, c'est un petit peu ça, la différence entre les deux.
Tu as souvent utilisé le terme là, « jeune ». Oui. En fait, là, au niveau de la clientèle, qu'est-ce qu'on entend par « jeune »
Gestion jeunesse, nous, on vient en aide vraiment à des jeunes adolescents, donc de 15 à 17 ans. Il faut savoir qu'on a deux programmes. Donc, on a un programme qui s'appelle Jeunes en mouvement vers l'emploi, qui s'occupe exclusivement des 15 ans. Puis, on a un programme module jeunes travailleurs qui, eux, interviennent avec les 16-17. Faut savoir que tous nos jeunes viennent sur base volontaire. Moi, je travaille exclusivement avec les jeunes de 15 ans dans le module jeunes en mouvement vers l'emploi. À l'interne, on appelle le module 15 ans, puis l'autre module, c'est le module 16 ans. Donc, je vais utiliser ce terme-là, c'est plus facile. Dans le fond, moi, c'est des jeunes qui sont en pause scolaire. Là. Donc, ici, on parle de décrochage scolaire. Ils peuvent vivre des difficultés. Ça peut être personnel, familial ou de santé. Puis, on couvre une grande partie du territoire. Là. Donc, de Sainte-Anne-de-Beaupré à Saint-Raymond-de-Portneuf, tout ce qui est entre les deux aussi. Là. Donc, on peut aller vraiment large là, dans notre clientèle. Puis, il faut savoir que moi, vu que je m'occupe des 15 ans, il y a l'aspect de l'obligation de fréquentation scolaire. Donc, l'obligation de fréquentation scolaire, c'est que le jeune est obligé de fréquenter l'école jusqu'à ce qu'il aille 16 ans au 30 juin. Ici, il faut savoir que si, mettons, le jeune, sa fête, c'est le 2 juillet, mais même s'il a 16 ans, il va devoir refaire l'obligation de fréquentation scolaire l'année suivante parce que c'est important qu'il ait 16 ans avant le 30 juin. Donc, il y a ces petites particularités-là. Puis aussi, ce qui fait en sorte que nous, on peut interagir avec les jeunes de 15 ans malgré l'obligation de fréquentation scolaire, c'est qu'on a un lien avec les écoles, on collabore avec les écoles, puis le CIUCN, là, mais bref, la DPJ, le signalement. Donc, on a une collaboration entre les deux qui dit « OK, ben on accepte que tu viennes à gestion jeunesse, vivre une expérience positive au lieu d'être en obligation de fréquentation scolaire. C'est sûr que notre but ultime, c'est qu'ils retournent à l'école, mais moi, je travaille vraiment beaucoup avec ces jeunes-là. Puis mes jeunes aussi, il faut dire qu'ils proviennent des programmes réguliers, mais aussi beaucoup des programmes particuliers. Tu sais, quand j'entends programmes particuliers, c'est des jeunes qui sont en FMS, FPT, CPFC, des programmes comme Parcours, Passerelle, bref. Ça, c'est des programmes plus adaptés, mettons, au rythme de l'élève. Ça peut être des élèves qui n'ont pas encore leurs acquis de primaire, mais qui ont 15 ans. Ça peut être des élèves qui ont plus des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi savoir s'adapter, là. Puis nous, on travaille en collaboration dans le sens on fait des suivis aux écoles, on fait des suivis aux partenaires au dossier, puis on suit le jeune tout au long de l'année scolaire. Donc, c'est un peu ça notre mandat. Bien sûr, si j'ai pas atteint les objectifs au 30 juin, il y a possibilité de poursuivre durant l'été. Fait que c'est ça. Fait qu'on est vraiment personnalisé dans notre démarche avec notre clientèle parce qu'elle est justement très particulière.
Super intéressant. Puis, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et professionnel?
Oui, moi j'ai commencé au cégep en sciences humaines et langues, puis j'avais comme pas trop ce que je voulais faire, j'avais rencontré une conseillère d'orientation, donc une CO à l'époque, qui m'avait dit « Hey, ça te tente pas d'être conseillère d'orientation ». Fait que c'est pour ça que j'ai fait le bac en orientation puis la maîtrise aussi. Donc, moi, quand je suis sortie de ma maîtrise, j'avais comme le goût d'essayer un peu différentes choses. Puis, j'ai commencé ma carrière comme intervenante dans une maison des jeunes. Puis, éventuellement, je suis devenue responsable de l'animation. Récemment, là, avec la pandémie, on le sait qu'on a des remises en question. Fait que j'avais le goût d'essayer autre chose. Là. Puis moi, l'employabilité, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Fait que j'ai eu la chance, justement, d'avoir un poste à gestion jeunesse comme conseillère en emploi. Faut savoir que je suis quand même membre de l'Ordre actuellement par désir personnel. Tu sais, ça me prend pas l'Ordre pour travailler. Je fais pas de processus d'orientation. Mais moi, personnellement, c'était un bel accomplissement personnel. Donc, on peut être membre de l'Ordre puis être conseillère en emploi pour ceux qui pourraient être intéressés avec notre formation.
Puis, dis-moi, actuellement, là, à quoi ça ressemble une journée type chez Gestion Jeunesse? Puis, c'est quoi les défis là, que tu peux rencontrer aussi?
Oui, bien dans le fond, une journée type, ça peut être très variable, je dirais, dépendamment des périodes de l'année aussi. Fait que, tu sais, on s'entend que l'été, en ce moment, c'est plutôt tranquille. Parce que c'est pas là que les jeunes sont à l'école, fait qu'on a beaucoup moins de clientèle, fait que c'est plus tranquille. Mais quand c'est vraiment dans le vif de l'année, par exemple en octobre, là, quand on va commencer, quand l'école va avoir commencé, que là, les élèves vont voir, les écoles vont aussi déterminer « Ah, peut-être cet élève-là a besoin d'une petite pause, puis ils vont faire un commun accord. » Fait que ça ressemble souvent à, mettons, 2-3 clients par jour parce qu'il faut savoir que moi, j'offre le transport. C'est-à-dire que si le jeune a des difficultés à venir à gestion jeunesse par lui-même ou que le parent ne peut pas venir le porter ou que l'autobus, c'est compliqué, donc moi, je vais le chercher avec mon véhicule. Fait qu'il faut que je me prévoie mon temps de transport. Une grosse journée, je peux plugger facilement 4 rencontres si ce n'est pas toutes des jeunes avec un transport, mais je dirais que généralement, je suis à 2-3 clients par jour. ça se peut que je rencontre plus qu'une fois le client par semaine. Si le jeune, il dit « OK, non, moi, je veux que ça aille vite, là, je veux vite, vite me trouver un emploi », bien là, on peut faire 2-3 fois semaine, mais souvent, en moyenne, c'est 1 à 2 fois semaine, je dirais. Puis aussi, ça va dépendre des besoins du jeune, parce que c'est lui qui va décider de son parcours. Est-ce qu'il a le goût de faire un stage? Est-ce qu'il a le goût de faire un emploi? Fait qu'on va regarder ça ensemble là, pour déterminer qu'est-ce qui fit le mieux. Puis sinon, ben comme tout autre travail, je fais aussi un peu de travail de bureau. Donc, j'ai des notes évolutives à faire, de la tenue de dossier. Je vais mettre à jour certains outils. Je vais en créer d'autres pour faciliter mon travail. Puis je vais essayer de faire de la formation pour me tenir à jour le plus possible.
Ça m'a fait penser à une question par rapport au fait, là, on a parlé des 15 ans là, tout à l'heure par rapport à l'obligation de fréquentation scolaire. C'est comme une alternative à la fréquentation scolaire. Donc, est-ce que tu sens des fois qu'il y a des jeunes pour qui l'implication n'est pas nécessairement volontaire?
Oui, effectivement, on se cachera pas. Des fois, c'est pas nécessairement le jeune qui s'est dit « Hey, ça me tente d'aller à la gestion jeunesse ». Des fois, ça peut venir d'une personne extérieure. Donc, il faut vraiment que je m'assure que le jeune est partant puis est impliqué dans sa démarche. Puis éventuellement, le cas que je me rends compte que « Ah, tu sais, il répond pas à mes messages, il me semble pas impliqué », puis il me dit verbalement « Ah, moi, ça me tente pas de venir à la gestion jeunesse », bien à ce moment-là, si je peux avertir le partenaire, que ce soit je vais avertir l'école, s'il est avec le centre jeunesse, je vais avertir le centre jeunesse, puis à ce moment-là, on va suspendre là, son implication auprès de gestion jeunesse. Et nous, on veut être sûr à 100% que le jeune est volontaire. On veut s'assurer qu'il a le goût de venir. On n'obligera pas un jeune à fréquenter nos services si ça y tente pas, dans le fond. Puis si j'allais un peu plus sur mes défis quotidiens, ben ça en est un pour vrai. Un défi quotidien, ça fait une belle, un beau lien parce qu'effectivement, un jeune, ça peut changer d'idée rapidement. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans sa vie. Par exemple, les objectifs ou du processus peuvent changer. S'il a quitté son emploi, il s'est fait renvoyer, on va devoir changer notre façon de faire. Finalement, il était au centre jeunesse, ben là, tu sais, ça aussi, ça va venir jouer sur nos rencontres, notre façon, notre processus. Fait que la gestion d'horaire, des fois, ça peut être un petit peu difficile, là, parce que aussi, c'est des jeunes de 15 ans, il y a le volontariat, puis des fois, il y a la contrainte des intervenants externes. Fait que des fois, ça peut être plus difficile. Ça m'arrive d'avoir beaucoup d'annulations, de devoir reporter le rendez-vous. On essaie de trouver des stratégies qui peuvent faciliter les rencontres avec les jeunes. Puis aussi, souvent, nos jeunes sont en processus d'évaluation. Aussi, j'entends, ils sont en attente d'un diagnostic de TDA, TDAH, d'un trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être des troubles de santé mentale. Bien, parfois, en tant que conseiller en emploi, bien, ça peut être difficile d'adapter tout de suite notre intervention ou d'utiliser les bons outils pour que ce soit le plus favorable avec le jeune. Fait que des fois, on essaie quelque chose, on se rend compte, ah, ça fonctionne pas. Fait qu'il faut s'adapter en cours de route. Là. Fait que je dirais que ça, c'est dans mes plus gros défis quotidiens. Ouais.
Dans le fond, tu as parlé que tu collaborais avec différentes instances, là, les écoles, les centres jeunesse, même tu as nommé même la DPJ aussi. En fait, avec qui es-tu amené à collaborer, tu sais, dans ton travail, mettons, quel type de professionnel ou quel autre type d'intervenant, en fait, avec qui tu collabores au quotidien?
Oui, fait que dans le fond, comme je disais, tu sais, quand je parle d'école, c'est vraiment toutes les commissions scolaires là, à Québec. Fait que la commission scolaire de la capitale, des découvreurs, des premières seigneuries, puis on peut collaborer dépendamment qui est au dossier. Ça peut être un directeur d'école, un directeur adjoint, une conseillère en orientation, pardon, un éducateur, un travailleur social, un professeur, un enseignant plutôt. Ça peut être aussi, quand je parle de CUCN, ça peut être quelqu'un qui est un TS au signalement, ça peut être un éducateur dans un centre jeunesse. Ça peut être assez large, je dirais. Là, je ne les nommerai pas tous. Mais sinon, on va aussi venir collaborer avec les parents, bien entendu. Surprenamment, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent, dans le sens que nous, on essaie de travailler le plus possible avec le jeune parce que c'est sa démarche à lui. Mais oui, je peux parler quand même aux parents s'il y a quoi que ce soit. S'ils ont des questions, on est ouvert là. Mais généralement, on essaie d'y aller directement avec le jeune. Sinon, on va travailler avec les employeurs dans les entreprises. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, on offre le stage. Donc, on va venir collaborer avec une entreprise. On fait des suivis avec eux. Il peut arriver dans des situations particulières qu'on va travailler avec une entreprise qu'un jeune est en emploi là-bas. Souvent, par exemple, quand le jeune est en emploi, ben là, on le laisse gérer ses choses par lui-même. Si le stage, on est plus présent, l'emploi, non. Là. Mais ça peut arriver qu'on est là. Sinon, on fait affaire aussi avec les entreprises d'insertion. Il faut savoir aussi que les entreprises d'insertion, c'est pour les 16 ans et plus. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de lien avec eux, sauf si je veux faire un stage, par exemple, dans une de ces entreprises-là. Parfois, ça peut arriver. Par contre, le seul moment où on va vraiment collaborer avec une entreprise d'insertion, c'est quand on va faire des ateliers d'employabilité, par exemple Dimension, qui est une entreprise de formation. Bien, on est invité à faire des ateliers d'employabilité chez eux 2-3 fois par année. Là, donc, ça peut être aussi un exemple de collaboration. Puis, bien sûr, les agents d'Emploi Québec, là, quand on inscrit nos jeunes sur le site d'Emploi Québec, ça peut arriver qu'on communique avec eux.
Et les entreprises d'insertion, en fait, c'est des endroits où les gens y ont des formations, c'est ça?
Bien, ça dépend. Tu sais, comme quand je dis entreprise d'insertion, puis il y a les entreprises d'insertion et de formation. Par exemple, Dimension. Ici, c'est un endroit où les gens vont plus avoir des formations. Donc, nous, par exemple, on va dans le volet exploratoire. Donc, c'est des jeunes adultes qui ont le goût d'explorer un peu c'est quoi l'ébénisterie, c'est quoi l'ébénisterie, puis voyons, la soudure, pardon. Fait qu'ils vont pouvoir voir là, mais il y a d'autres entreprises d'insertion, par exemple, comme Vélo Vert. Eux, c'est vraiment de la formation, tu sais, comme sur le terrain d'un emploi. Fait que, tu sais, ils doivent puncher comme s'ils travaillaient, donc ils travaillent sur des vélos à les reconditionner, puis ils font toutes les mêmes choses comme s'ils étaient vraiment en emploi, donc c'est pour les insérer sur le marché du travail. Donc, il y a Vélo Vert qui est plus dans les vélos, il y a le recyclage vanier aussi. Il y a Piolet qui est comme vraiment intéressant parce que c'est la cuisine. Donc, tu sais, on a des belles salles de réception. Donc, c'est de la cuisine quand même haut de gamme. Il y a des serveurs et des cuisiniers. Ils offrent même de l'hébergement là-bas. Donc, dépendamment des différentes entreprises, là, souvent, ils ont différentes possibilités. Comme par exemple, Piolet, c'est insertion et formation parce qu'ils ont une formation qui vient avec. Mais tu as d'autres places comme par exemple Vélo Vert. Ben, des fois, ils ont des petites formations, là, mais ça dépend des places.
OK. Fait que dans le fond, c'est plus une question, dans le fond, c'est un peu comme une pratique, si je peux dire ça entre guillemets. Ils se font une petite expérience au travers de ça pour justement avoir une expérience après ça de travail. Là.
Exactement. Dans le fond, c'est okay. Une façon pour eux de pouvoir expérimenter le marché du travail pour éventuellement avoir un vrai travail. Là, pas que je considère ça comme un pas vrai travail, c'est juste qu'ils sont plus encadrés avec des intervenants. On veut juste leur donner un petit poussé de plus pour qu'après ça, ils puissent y aller par eux-mêmes puis être plus à l'aise. Ouais.
Puis, on pourrait poursuivre là, à savoir, en fait, te parler un petit peu de ton parcours scolaire, professionnel. Dans quel milieu là, tu pourrais également exercer là, des milieux qui sont connus, mais aussi des milieux qui sont peut-être un petit peu moins connus?
Oui, bien, si c'est ça. Si je regarde, comme je disais au début, tu sais, conseiller en emploi, ça peut être vague parce que ça peut porter plusieurs titres différents sans nécessairement être conseiller en emploi. On peut travailler dans différents secteurs. Par exemple, tout ce qui est entreprise, dans le sens que des firmes conseil, tu sais, une firme conseil, ça, c'est par exemple l'agent de formation de main-d'œuvre, ça, c'est un conseiller en emploi qui fait juste venir donner un coup de main à l'entreprise pour mieux former leurs employés, donner des conseils au niveau de l'employabilité. Certaines entreprises peuvent utiliser ce type d'employé-là. Sinon, il y a aussi les ressources humaines. Donc, ressources humaines, mais dans le sens d'employabilité, encore une fois. Donc, dans la gestion un peu d'employés, tout ce qui est encore embauche d'entrevues, des choses comme ça. Donc, ils peuvent faire affaire avec des personnes qui sont formées comme nous. Il y a aussi tout ce qui est communautaire. Par exemple, les services d'emploi, là, gestion jeunesse et l'employabilité. On peut penser au Carrefour Jeunesse Emploi. On peut penser aux entreprises comme, par exemple, Libre Emploi, qui est aussi une autre entreprise employabilité. Puis, il y a aussi le développement de main-d'œuvre. Donc, souvent, par exemple, il y a certains Carrefour Jeunesse Emploi qui ont aussi des plateaux de travail. Donc, à ce moment-là, c'est aussi, on peut travailler dans ce domaine-là. Puis, il y a aussi tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est comme, par exemple, la réinsertion, l'aide aux populations comme, par exemple, autochtones. Donc, c'est vraiment très, très large. Pour vrai, c'est pas parce que c'est écrit, mettons, directement conseillère en emploi, ben il faut regarder un peu les tâches, puis souvent, on peut avoir un lien là, facilement. Tout ce qui touche un peu à l'habilité, on est en mesure de travailler. Là, ouais.
OK. Puis, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, dans ce domaine-là?
Je dirais que c'est sûr qu'avec mon expérience dans la maison des jeunes, auprès des jeunes, moi, j'ai toujours aimé ça, travailler auprès de cette clientèle-là. C'est une clientèle avec laquelle je suis à l'aise. puis que j'aime beaucoup travailler. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité de conseillère en emploi, de mixer l'employabilité puis la clientèle jeune, c'était parfait pour moi. Donc, c'est vraiment la clientèle qui m'a attiré, le niveau d'employabilité. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça, la recherche d'emploi, les CV, vraiment avoir l'impression de faire une différence dans le parcours professionnel d'un jeune. Travailler en contact avec la clientèle, moi, je suis vraiment une fille de terrain. Puis aussi, ben, ça fait un beau lien avec quand même le partenariat avec les écoles, les centres jeunesse. Je trouvais ça intéressant. Fait que ça nous permet justement d'avoir différentes visions puis d'être en mesure de collaborer avec différentes personnes, en fond.
Plus spécifiquement, dans le fond, tu en as parlé un petit peu dans quand tu as parlé de ton parcours, mais qu'est-ce qui fait que finalement tu es allée en orientation? Tu disais qu'au cégep, tu n'étais pas vraiment dans un. Ben, tu étais en sciences humaines et langues, ce qui est un très bon programme, mais je veux dire, c'était pas directement en lien avec ça. Qu'est-ce qui a fait que, en fait, tu es allée en orientation? Est-ce que c'est un hasard? Tu t'es dit que tu allais l'essayer ou.
Bien, dans le fond, c'est que moi, j'ai toujours un intérêt pour l'intervention, dans le sens, tu sais pas que c'est l'intervention au début, là, mais tu sais, avoir une bonne écoute, avoir envie d'aider les autres. Tu sais, souvent, j'étais l'amie qu'on jasait un peu de tout et de rien. Puis ça, j'ai toujours été bonne là-dedans, là, tu sais, d'écouter l'autre. Fait que je me suis dit, tu sais, pourquoi pas aller dans un domaine, justement, où il faut être à l'écoute. Puis, honnêtement, au début, je voulais aller en psychologie. J'aurais aimé ça être psychologue. Puis après ça, quand tu réalises tous les efforts que ça prend, le bac, ensuite tout de suite le doctorat, faut que tu fasses des stages, choses comme ça, je trouvais ça un peu trop intense pour moi personnellement. Je savais que j'étais moins outillée, moins capable de faire ça. Puis c'est quand j'ai rencontré ma CO, elle a dit, tu sais, il y a plusieurs options, tu es psychologue, psychoéducateur, tu es conseiller d'orientation, puis j'ai fait comme crime, je sais pas trop ce que je veux faire, mais je vais aider les autres à trouver une job, tu sais, dans le fond, c'est un petit peu ça que je me suis dit. Fait que je me suis lancée comme ça en me disant, tu sais, je vais l'essayer, puis au pire, je changerai en cours de route, puis finalement, ben j'aime vraiment le fait que c'est tellement large, tellement flexible comme domaine, tu sais, on peut travailler dans différents secteurs, faut juste aller chercher parfois, tu sais, une petite formation ou quelque chose, mais on peut travailler tellement dans différentes choses. On n'est pas stagné comme CEO dans une école, tu sais, conseillère en emploi, ça fonctionne. Tu peux travailler dans tellement de secteurs. C'est ça qui m'a attiré, moi. C'est les possibilités, vu que je savais pas trop ce que je voulais faire. Tu sais, je me dis, il y a pas quelque chose dans tout ça qui va m'intéresser, dans le fond. Mais au moins, ça rejoignait l'intervention, là, c'est ça.
En fait, tantôt, tu as mentionné un peu là, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le secteur, là, dans ce domaine-là. Puis, si tu avais à cibler une chose que tu apprécies le plus dans ton quotidien, ça serait quoi?
Je dirais que c'est ma grande flexibilité. Ouais, la flexibilité que j'ai au quotidien, c'est ce que j'aime vraiment le plus. C'est oui, il y a des lignes directrices dans le sens qu'on a comme un parcours qu'on peut offrir aux jeunes, mais tu sais, il n'y a jamais rien de... Il n'y a pas d'étape à suivre. Tu sais, si le jeune, il veut pas faire l'entrevue parce qu'il se sent capable, ben, on n'est pas obligé de la faire, tu sais. On peut tellement faire différentes choses avec les jeunes. Puis c'est ça que j'aime aussi, tu sais. Ça me permet d'avoir ma couleur aussi auprès de ma clientèle. Il n'y a pas de façon parfaite d'intervenir parce qu'on est chacun une personne différente. On a chacun une façon d'intervenir. Donc, on peut y aller de différentes façons. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi. Puis moi, je suis une personne assez créative. Fait que j'aime ça, mettre un peu ma touche dans ce que je fais. Fait que ça me permet de créer des outils, de mettre ma couleur dans tout ce que je fais, d'optimiser mon travail. Donc, vraiment, ça, c'est ce que j'ai aimé le plus de mon travail en ce moment, là. C'est ma flexibilité.
Quelles seraient les principales qualités à avoir pour exercer ce métier-là, selon toi?
Il y en aurait quand même quelques-unes, mais je te dirais que une des premières, c'est une ouverture d'esprit. Parce que, par exemple, quand on travaille avec une clientèle jeune, c'est des jeunes qui peuvent être assez fragiles, des fois, dans ce qu'ils vivent dans leur vie. Donc, il faut être en mesure, tu sais, de respecter leur authenticité. Puis souvent, on peut avoir des jeunes de différentes origines culturelles, d'identité sexuelle aussi. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec l'ouverture d'esprit, de pouvoir travailler avec différents types de clientèle, puis aussi d'être en mesure de respecter aussi chacun. Fait que ça, je pense qu'à la base, c'est important. Ensuite, je dirais que le lien de confiance, c'est vraiment ça qui fait un peu de foi de tout, dans le sens que si tu es en mesure de créer un bon lien de confiance avec le jeune, puis que tu gardes ce lien-là tout au long, c'est sûr que ton jeune va peut-être avoir le plus le goût de t'impliquer parce qu'il comprend mieux c'est quoi ton rôle, c'est qu'est-ce que tu fais avec lui. Puis aussi, ça fait une belle relation parce que tu es en mesure de mieux comprendre c'est quoi le besoin du jeune, c'est qu'est-ce qu'il a besoin pour faire sa recherche d'emploi, est-ce qu'il est plus dans une étape de stage. Fait que tu sais, C'est important parce que c'est ça qui fait qu'il guide le rythme du conseiller aussi avec le jeune. On peut faire en bout de ligne, pardon, un peu de co-responsabilité. Donc, on ne laisse pas toute la responsabilité au jeune. On l'apprend aussi parce qu'ils sont encore jeunes. Fait qu'on est là, on l'accompagne. Donc, vraiment, le lien de confiance, pour moi, c'est hyper important. Puis, un petit dernier, je dirais la capacité d'adaptation. Tu sais, j'ai mentionné tout à l'heure, ton horaire, il peut changer. Si le jeune, il vit de nouvelles situations, il a changé d'idée finalement. Il est arrivé telle situation dans sa vie, là, il faut prendre une pause de rencontre parce qu'il faut qu'il règle un problème. Fait qu'il faut que tu t'adaptes aux différentes situations, aux différents objectifs qui peuvent varier. Donc, c'est quand même important, justement, de respecter le rythme du jeune, le fonctionnement, ses besoins. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un bon combo, tout ça, un bon trio. Donc, ouverture d'esprit, lien de confiance, capacité d'adaptation. C'était tout ça, d'après moi, tu t'en sors bien, là.
Super. Donc, tu viens de traiter là, des qualités, les principales. Au niveau des valeurs, est-ce qu'il y a autre chose que tu apporterais comme étant important?
Oui, bien, dans le fond, un petit peu ce qui vient toucher ça, tu sais, tant qu'à moi, c'est faire preuve de la valeur de l'empathie, tu sais, justement d'être capable de faire attention, de porter attention aux besoins du client. Si on veut les aider, tu sais, il faut avoir une certaine empathie, puis non, tu sais, tomber dans la compassion, de dire ah, oh, pauvre, tu sais. Il faut aller un peu plus que ça, il faut comprendre ce qu'il vit, essayer de comprendre. Des fois, on ne comprend pas nécessairement, mais au moins d'avoir cet élan-là, souvent, ça va venir aider la relation. Puis, je dirais l'entraide, là, c'est une valeur hyper importante, surtout quand tu es conseillé comme ça en emploi. Tout le temps, on s'entraide ensemble. C'est pour ça que je dis, on n'est pas une agence de placement. Je ne te dis pas, là, toi, tu vas aller travailler au métro, puis toi, tu vas aller travailler au passé. On travaille ensemble avec le jeune dans sa démarche, on veut qu'il s'implique. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve que ça, c'est hyper important aussi comme valeur là, en tant que conseiller en emploi.
Puis, ton horaire pendant la semaine, ça ressemble à quoi?
Je dirais que j'ai un horaire assez fixe, dans le sens que moi, je travaille 35 heures semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 4h30. Donc, c'est nos heures d'ouverture. C'est sûr que notre directrice est souvent très adaptante. Là, elle peut nous donner la possibilité, par exemple, de faire du télétravail si on a une situation particulière à la maison. Donc, la conciliation travail-famille, c'est quand même très intéressant dans notre organisme à nous. C'est très fixe, là. Donc, on a des heures d'ouverture. Puis, l'été, on a un horaire d'été. Donc, le vendredi, on termine un petit peu plus tôt. Mais ça change pas vraiment, là. Ça peut arriver qu'on travaille une fin de semaine si jamais on fait un événement X de financement ou quoi que ce soit, mais c'est très, très, très rare, là.
Puis, en fait, on aimerait savoir, là, après tes études, comment ça s'est présenté, ton insertion là, sur le marché du travail? Est-ce que tu considères que ça a été relativement facile ou difficile? Puis, qu'est-ce qui a facilité ton intégration? Puis, qu'est-ce qui a été peut-être un embûche?
Pour ma part, je pense que c'est très particulier là, à chacun, dans le sens que, de façon générale, je pense que les jeunes diplômés du bac en orientation ou d'un bac connexe qui permet de faire conseiller en emploi, je pense qu'ils ont de bonnes chances de placement. Par contre, tu sais, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Fait que moi, je dirais que ça a été un petit peu difficile au début, dans le sens que je manquais énormément d'expérience. Et je trouve qu'un bon conseil que je peux donner aux futurs diplômés, c'est que fais des stages, essaye de faire un stage le plus possible qui est connexe à un domaine que tu as le goût de développer ou d'explorer. Moi, je trouve que mes stages, tu sais, je les ai bien aimés, mais si j'aurais pu aller chercher un stage, mettons, en employabilité, parce que c'est ça que je voulais faire, fait que j'avais pas vraiment ça. Fait que, tu sais, des fois, quand tu postules, puis que beaucoup de personnes qui postulent en même temps que toi, ben ça se peut que ton manque d'expérience, parfois, ça peut faire la différence. Donc, il faut essayer de se démarquer aussi. Fait que c'est pour ça que je dis ça, c'est des facteurs qui peuvent venir nuire. Ça dépend aussi du nombre d'offres disponibles. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont meilleures que d'autres pour se trouver un emploi. C'est sûr que si tu cherches un emploi en même temps que tous les diplômés qui terminent, ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile. Par contre, si tu essaies de postuler à d'autres moments, ça se peut que tu aies plus de chance. Donc, moi, c'est un petit peu ça aussi avec l'opportunité que j'ai eue de travailler chez Gestion Jeunesse. Je cherchais, mais tu sais, ça a été vraiment de saisir l'occasion qui s'y passe. Tu sais, saisir l'opportunité de dire, hey, on va l'essayer, puis finalement, peut-être que tu vas trouver un domaine qui t'intéresse vraiment, un peu comme moi, c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, je dirais que pour augmenter les chances, pour faciliter, c'est d'aller chercher peut-être des travails, des emplois d'été ou des stages qui sont en lien directement avec le domaine que tu convoites ou que tu as le goût d'explorer. Ça peut être un facilitant là, à la recherche d'emploi. Là, moi, je pense que c'est ça qui a fait la petite différence.
Parfait. Puis, est-ce que dans ton secteur, il y a des possibilités d'avancement ou de promotion?
sais, pas vraiment de possibilité d'avancement en soi. Tu sais, c'est sûr que il y a possibilité de faire d'autres types de tâches dépendamment des secteurs. On s'entend qu'un conseiller en emploi chez Gestion Jeunesse ne fait pas la même chose qu'un conseiller en emploi dans un Carrefour Jeunesse-Emploi, par exemple. On ne fait pas les mêmes tâches, on a des tâches différentes. C'est sûr que, par exemple, à Gestion Jeunesse, nous, on a un employé, un collègue, qui, lui, est agent de liaison en plus d'être conseiller en emploi. Fait que c'est vraiment lui qui va venir recruter, qui va faire le premier lien avec les écoles au niveau du recrutement. Donc, il va rencontrer les jeunes en premier, puis après, il dispatche un peu les jeunes avec les conseillers des différents programmes. Donc, ça peut être une sorte de promotion qui est possible. C'est sûr que éventuellement avec l'expérience, ça fait beaucoup d'années d'expérience, puis tu as le goût d'essayer autre chose, peut-être que tu peux convoiter un poste de direction d'un organisme, mais tu sais, en soi, il n'y a pas d'étape supérieure à conseiller en emploi. Là.
Super, puis on irait avec une toute dernière question pour conclure l'entrevue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans ce métier-là?
Ça, je dirais que souvent, là, tous les malaises que j'ai pu vivre là, depuis mon début d'embauche à Gestion Jeunesse, je dirais que c'est tout par rapport aux zones grises, les fameuses zones grises. J'aurais aimé ça les savoir, mettons, avant d'être employée, dans le sens qu'il y en a beaucoup, beaucoup, puis on s'en rend pas compte avant d'être sur le terrain puis de faire le travail, tu sais. Puis c'est pas quelque chose qui va être appris nécessairement à l'université ou dans tes études. Tu sais, il y a personne qui va nécessairement t'expliquer non plus c'est concrètement, c'est quoi l'employabilité? Ben personnellement, dans mes études, j'ai pas eu beaucoup de cours sur l'employabilité. Fait que je trouve que parfois, on peut manquer un petit peu d'outils si t'es pas, si toi, tu te formes pas par toi-même. Mettons que tu pars directement de l'université. Ça se peut que tu ailles à te former un petit peu plus dans le domaine, ce qui peut amener des malaises, des zones grises. Puis il y a aussi le fait que quand tu commences comme conseiller en emploi, tu n'as pas le temps de faire de l'observation. Si tu rentres dans le bain, puis ça peut rouler rapidement. Fait que souvent, c'est un petit peu ça que j'ai trouvé. Puis quand je parle de zone grise, c'est par exemple avec la clientèle. Tu sais que tu vas avoir à travailler avec différentes clientèles qui ont différentes problématiques, mais tu sais que tu n'as pas nécessairement non plus tous les outils, toute la formation, tous les outils pour bien intervenir avec eux. Fait que là, tu arrives devant un nouveau client, puis tu es comme, oh, OK. Par exemple, un jeune qui a un diagnostic de TDAH, ben, tu sais, parfois, certains outils fonctionnent pas. Fait que là, t'es là, puis t'es, OK, OK, crime, faut que je me trouve une autre stratégie pour mieux intervenir, pour qu'ils soient plus à l'aise aussi, là, dans nos rencontres. Fait que souvent, ça, c'est un peu des zones grises que t'apprends pas. Mais, tu sais, c'est un apprentissage tout au long de ton travail à tous les jours. Je pense qu'on travaille là-dessus. Puis aussi, le fait que, oui, tu as collaboré avec des partenaires, mais est-ce qu'on a vraiment une façon, tu sais, bien décrite, on collabore, on écrit de telle façon avec eux, ben je pense aussi ça, c'est une zone grise que tu apprends en travaillant, tu sais, d'utiliser des termes plus spécifiques, de justement de pas mettre de zone grise, tu sais, tu veux dire, le jeune n'est pas volontaire, on suspend le dossier, tu sais, on veut être clair, ben parfois, ça peut être difficile d'être clair dans ce qu'on veut dire. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on va apprendre tout au long là, de nos expériences. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Moi, tous mes malaises, c'est par rapport à ça un peu, là, tu sais, d'arriver devant une nouvelle situation puis de faire OK, tu sais, là, comment je travaille avec ça, comment je travaille avec tes jeunes. Donc, moi, je dirais que c'est ça, là, que j'aurais aimé savoir un peu plus, mais en même temps, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir non plus. Donc, c'est assez compliqué.
Donc, en fait, un peu l'incertitude qui règne un peu après, parce que, tu sais, malgré la formation, les cours et tout ça, c'est très différent d'être à l'école puis d'être sur le terrain. Fait que c'est un peu ça, l'espèce de clash, si je peux dire, entre les deux, dans le fond, que tu aurais aimé connaître avant.
Exactement. C'est exactement ça. Là. Tu l'as vraiment bien résumé, là, mais c'est un petit peu ça, oui, le clash qu'on peut vivre. C'est pas quelque chose qui va venir déranger le quotidien au travail. C'est vraiment des situations particulières, là, mais ça te fait justement vouloir te remettre à jour sur certaines choses, puis c'est tout à fait normal, là, parce que peu importe le secteur dans lequel on va travailler, que ce soit gouvernemental, organisme, communautaire, c'est sûr qu'il y a des petites choses qui vont être très spécifiques au domaine qu'il va falloir se remettre à jour, là, donc...
Ça fait le tour là, des questions qu'on avait pour toi aujourd'hui. On te remercie là, beaucoup. En fait, ça nous a permis de clarifier un peu c'est quoi le rôle là, d'une conseillère en emploi là, liée à une clientèle plus jeune, clientèle jeunesse adolescente. Donc, merci beaucoup pour ton temps.
Oui, ça me fait plaisir. Là. J'ai super apprécié. Merci à vous.
Au nom du Carrefour Jeunesse Emploi et d'Accès Travail Portneuf, nous tenons à remercier tous nos invités ainsi que tous nos auditeurs. Au plaisir de vous revoir dans un prochain balado. Restez à l'affût.